Évangile selon Jean, quelques passages, sans plus tarder. Jean chapitre 2, verset 23. Jean chapitre 2, verset 23. Et ensuite nous irons au chapitre 6. Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage ou qu'on lui renseigne sur aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Au chapitre 6, verset 60, s'il vous plaît. Chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous choque ou vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Car l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, parce qu'il vient de dire, qu'il fallait manger sa chair et boire son sang. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Juste avant, il est dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Alors, il revient et fait allusion à cette parole qu'il venait de dire. Verset 66. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ?» Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus lui répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Nous avons lu dans un premier temps que Jésus ne se fiait pas à l'être humain. Les gens croyaient en lui. Les gens le suivaient. Les foules devenaient de plus en plus nombreuses. Et combien cela même parfois rend les hommes orgueilleux parce que ça les grise. De plus en plus de personnes le suivaient, mais Jésus reste la tête froide, garde sa raison, prend de la distance et il sait que derrière ce mouvement de foule, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas authentique, tout n'est pas profond. Quelle différence avec nous qui sommes impressionnés par le nombre. Quelle différence avec nous qui jugeons que c'est vraiment l'œuvre de Dieu quand il y a beaucoup de gens. Pourtant, Jésus a dit, à propos des faux prophètes et des faux messies, que beaucoup les suivront. Il a dit encore que large et spacieux est le chemin et que beaucoup l'empruntent. Mais le chemin du salut est étroit, resserré, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus n'a jamais été impressionné par la foule. Un jour, il se retournera et dira à cette foule, « Si quelqu'un !» Il s'adresse à une personne. Le Seigneur Jésus a des flammes de feu dans les yeux aujourd'hui. C'est l'Apocalypse au chapitre 1er qui nous le révèle. On ne le trompe pas. Mais déjà ici, il savait très bien que sa popularité était en partie superficielle. Que le Seigneur puisse nous permettre d'être de vrais croyants. Dans les cœurs desquels Dieu voit quelque chose d'authentique pour lui. Amen. Et il ne s'y est pas trompé, le deuxième passage que nous avons lu, effectivement, ses disciples l'abandonnent. Ceux-là même qui le suivaient, dans cet enthousiasme, c'est un mot que je n'aime pas trop, le mot enthousiasme parfois, dans cet enthousiasme, ici, plusieurs de ceux-là cessent, partent pour ne plus revenir. Et que disent-ils ? Jésus a une parole dure. Une autre traduction rend ainsi difficile à accepter. Dure, difficile à accepter. Et même ils disent, qui peut l'entendre ? Et c'est impossible ce qu'il dit là. C'est impossible à écouter. C'est impossible à accepter. C'est impossible à recevoir. Mais qui peut entendre ça ? Il exagère. Il va trop loin. Il est excessif. Qui peut entendre ce qu'il dit ? On dit parfois que l'évangile console, rassure, mais il faut être honnête. L'évangile, c'est aussi la vérité. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice, sainteté. Les choses ne s'opposent pas. Mais il ne faudrait pas quand même mettre trop en avant un aspect au détriment d'un autre. Non, la parole de Jésus n'a pas toujours fait consensus. Sa parole n'a pas toujours favorisé une unité humaine. Parfois, elle divisait la foule. Elle obligeait les uns et les autres à se positionner. Parce que Jésus n'était pas venu pour être apprécié, mais pour sauver les hommes. Et on ne sauve pas les hommes avec le mensonge ou une demi-vérité. Vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui nous affranchira. Amen. Alors il disait la vérité, il était la vérité. Il ne pouvait pas faire autre chose que de dire la vérité. Et j'aimerais, chers amis, que si vous venez en ce lieu, vous soyez prêts à entendre la vérité. Si vous voulez être sauvés, vous n'allez pas être sauvés par des flatteries. Mais Dieu aura tout au long de notre vie des choses à nous dire. Sa lumière nous éclairera. Et il nous faudra tout au long de notre vie garder ce cœur bien disposé pour être capable de nous humilier. Pourquoi cette parole était-elle difficile et dure ? Parce que c'était une parole nouvelle, désarçonnante. Jésus disait des choses que les autres ne disaient pas, des choses nouvelles parce qu'il parlait de son royaume, des choses inconnues. Et la première réaction quand on entend quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne cadre pas avec notre façon de voir les choses de Dieu, parce que la plupart des gens auxquels Jésus s'adressait, c'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de personnes incroyantes ou athées, mais presque tout le monde croyait en Dieu à l'époque, comme en France d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand il parlait, les gens qui étaient choqués n'étaient pas des incroyants, c'était des croyants, mais qui n'étaient pas prêts à accepter d'entendre autre chose que ce qu'ils croyaient. Et tout est là. La vérité de Jésus dérangera nos croyances, remettra en cause nos acquis. Et tout au long de la vie chrétienne, il nous faudra réviser notre copie. Et que le Seigneur nous emmène plus loin. Mais souvent, la première étape, c'est le refus. C'est nouveau, c'est différent, c'est pas la vérité. Non pas en réalité, c'est pas la vérité, c'est pas ma vérité. Mais nous avons tous notre vérité, mais c'est Jésus qui est la vérité. Alléluia. Et nos vérités se heurtent à la sienne. Et le vrai croyant va accepter la remise en cause, qui parfois est très déstabilisante. Pourquoi nous avons du mal à accepter la parole nouvelle et différente de Jésus? C'est parce que nous sommes déstabilisés quand nous commençons à entrevoir que, bien que chrétiens, sur certains sujets, nous nous sommes trompés le plus sincèrement du monde. Mais la vérité, c'est plus que la sincérité. Nous nous sommes tous, en tant que chrétiens, parfois trompés. Alors après, on essaye de tout expliquer. Si, si, ça venait du Seigneur, mais il y a eu ceci, mais il y a eu cela. Non, des fois, on a cru que des choses venaient du Seigneur, et ça ne venait pas du Seigneur. Je me souviens quand, une fois, j'ai eu un zona, je me suis entêté. J'étais à l'école biblique, et j'ai dit, le Seigneur va me guérir. Alors, j'appelais pas le médecin. Le zona prenait de plus en plus d'importance. C'était un zona facial. J'étais de plus en plus défiguré. Je parlais de coin, jusqu'à ce que je sache même presque plus parler. Et ma femme a osé me trahir. Elle a appelé le médecin dans mon dos. Quand il est arrivé dans la cour de l'école biblique, j'étais pas content sur ma femme. Mais le médecin m'a ausculté, il m'a donné un traitement, il dit, « Monsieur, si vous ne m'aviez pas appelé, dans 2 ou 3 jours, vous étiez paralysé à vie. » Bon, j'ai remercié mon épouse quand même. Alors, des fois, on veut obliger Dieu. On peut obliger Dieu à nous guérir? On peut obliger Dieu à nous répondre? C'est ce qu'Israël faisait dans le désert, hein. Que de fois ils le tentèrent, c'est-à-dire le provoquèrent. Alors, t'es Dieu ou pas? On est dans le désert, mais en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait. Et là, qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Oh là là, quand même. Non. Alors, nous nous trompons. Et nous avons besoin d'être détrompés par la parole vraie de Jésus. Amen. Heureusement que tous les prédicateurs ne sont pas toujours guéris, parce que sinon, ils deviendraient impossibles avec le peuple de Dieu dans leurs difficultés. Jésus rappelle sa divinité. Il leur dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter comme il était auparavant, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben, il fait part de son origine dans l'Évangile selon Jean, premier chapitre, tout commencement, il était... avec Dieu, il était Dieu. Donc quand il leur répond ça, il dit, écoutez, vous trouvez que c'est dur ce que je viens de vous dire? Je viens simplement de vous dire qu'il faut vous nourrir de moi, mais le jour où vous comprendrez que je suis Dieu, qu'est-ce que vous allez dire alors? C'est ça que cette parole veut dire. Et je crois que si Jésus rappelle sa divinité, il explique après aussi le symbolisme de ses propos. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Je ne voulais pas vous dire qu'il fallait me manger mon corps, mais qu'il fallait symboliquement se nourrir de moi. Comme ce matin, la Sainte Cène, nous n'avons pas mangé le corps ni bu le sang de Jésus. Nous avons, par la foi, communié par ces éléments symboliques avec le Seigneur Jésus en croyant en sa mort et en son sang. Amen. Nous ne pensons pas qu'il y a une présence réelle dans le pain et le vin de Jésus-Christ. C'est par la foi que sa présence a lieu au milieu de nous. Amen. Donc c'est ce que Jésus ici explique aussi. Mes paroles sont esprit et vie. Alors il explique. Sa parole est dure, mais il l'explique quand même. Et puis ce passage nous montre au verset 64 qu'il y a croyants et croyants. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pourtant, c'est ceux qui croyaient qui le suivaient. Il s'adresse à ses disciples. Donc il y a croyants et croyants. Il y a chrétiens et chrétiens. Il y a ceux qui croient pas vraiment en fait. Ils croient parce qu'ils ont vu des guérisons, des miracles. Ils croient pour des raisons superficielles. Mais le vrai chrétien, il croit pour les mêmes raisons que Pierre va expliquer après. Le vrai chrétien croit parce qu'il a compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Et que le plus important dans sa vie, c'est lui, c'est le Seigneur. Le véritable croyant va au-delà des bienfaits ou des histoires qu'il a pu voir et expérimenter. Les vrais croyants sont donnés par le Père. C'est ce que Jésus a rappelé. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. L'évangile de Matthieu dit même, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Quelle parole! Vous savez, nous, on peut essayer par des méthodes et des techniques humaines de faire grossir les rangs des églises. On peut réussir par des techniques de management adaptées au monde évangélique à avoir des foules. Mais tout cela est faux. Parce que le vrai peuple de Dieu, c'est le peuple que le Père donne à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous désirons de tout notre cœur avoir une église, une vie chrétienne, une foi authentique. Amen. Non pas fabriquée de toutes pièces par l'habileté de l'homme, mais le vrai culte est adressé par les vrais croyants, et ces vrais croyants, ce sont ceux que le Père donne à Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous faisons notre travail, nous témoignons, nous allons voir autour de nous, nous parlons, mais nous savons que ne se convertiront vraiment que ceux que le Père donne à Jésus-Christ. Amen. Et il ne nous intéresse pas d'ajouter à l'Église ceux que le Père n'a pas ajoutés. Et de toute façon, ces croyants-là ne tiendront pas dans le temps. On peut se dire, ah, c'est quand même pas normal, c'est malheureux de tous ceux que l'on a connus dans l'Église et qui ne sont plus, mais c'est biblique que de voir qu'au fil du temps s'opère toujours un tri dans le peuple de Dieu, entre les vrais croyants et les croyants superficiels. C'est normal. Ce n'est pas, parce que Jésus lui-même l'a vécu dans sa vie, dans son ministère. Et toutes les églises font cette expérience. N'iront au ciel que ceux qui sont vraiment attachés au Seigneur. Alléluia. Nous sommes testés tout au long de notre vie. Jésus ne retient pas ceux qui préfèrent partir. On est étonnés. Je ne pense pas que nous, on aurait réagi comme ça, parce qu'on est plein de peur. Quelle liberté! Il n'y a pas eu personne plus libre que le Seigneur Jésus. Quand on a peur, on n'est pas libre. Quand on a peur, on a beaucoup de réactions parce qu'on est lié par la peur. Jésus n'avait aucune peur. Il les voit partir, mais je pense que nous tous, on aurait fait « Attends, mais pourquoi tu t'en vas ? Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir moins de gens dans l'église. » Non, il les laisse. Et pire, il se retourne vers les 12. Je pense que c'était le moment de leur dire, bon écoutez, c'est pas grave, vous découragez pas. Ils se retournent vers eux et vous voulez pas partir aussi? Ça fait drôle. On n'a pas cette image. Mais le salut, il est personnel, il est volontaire. Il n'y a personne ce matin qui est là par obligation. Personne. Le Seigneur nous rend la liberté si nous voulons la reprendre. Mais ce n'est pas une liberté, c'est le malheur et c'est l'esclavage du péché. Mais dans ce moment difficile, il ouvre une porte pour ces 12-là. Bien-aimés, vous avez raison de rester près de Jésus. Amen. Même si nous n'y sommes pas obligés, nous préférons quand même rester auprès de lui. Jésus n'a pas l'esprit commercial. Il ne fait pas du commerce évangélique ou chrétien. Il dit la vérité pour que cette vérité soit acceptée et alors elle deviendra salut. Amen. Il ne marchande pas son message. Alors, pour Pierre, lui, ce ne sont pas des paroles dures. Il dit, ce sont les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alors, le même message, le même prédicateur, Jésus, pour les uns, c'est une parole terrible, une parole inacceptable, impossible à entendre. Et pour d'autres, ce sont les paroles de la vie éternelle. Voyez ? Ah, que nos cœurs soient bien disposés. Parce que des fois, on peut mal prendre la vérité ou bien prendre la vérité. Et les 12 l'ont pris comme c'était réellement les paroles de la vie éternelle. Amen. Et vous le savez que nous, des fois, quand on lit la parole de Dieu et qu'on est bien disposé, c'est la vie éternelle que l'on lit. Amen. C'est un jaillissement. Et parfois, quand nos cœurs sont plutôt mal disposés, quand on est dans la chair, on a beau lire cette même parole, elle est beaucoup moins vivante. Parce que c'est la disposition du cœur, c'est le terrain. On dit, on cite souvent cette parole de Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle, mais on ne réalise moins le contexte dans lequel il dit ces choses. D'autres viennent de dire le contraire, cette parole est dure. Et Jésus dit, vous pouvez partir, mais Pierre dit, non, moi je dis, c'est faux. C'est pas des paroles dures, ce sont des paroles de vie éternelle. Amen. Alors, chers amis qui débutez dans la foi, qui vous approchez de Dieu, ici vous entendrez la vérité dont vous avez besoin. Et cette vérité, ce seront des paroles de vie éternelle pour vous. Elles vous sauveront. Amen. Accepteriez-vous de vous repentir de vos péchés? À chaque fois que le Seigneur va vous parler, ne désobéissez pas. Reconnaissez que vous avez tort, demandez pardon, et la grâce de Dieu sera toujours pour vous. Alléluia. Un pardon abondant pour celui qui se repent. Alors voilà, Jésus avertit Pierre, pourtant à la fin, Pierre dit, mais nous savons que... Et la réponse de Jésus est un peu brutale encore à la fin. Hein. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? C'est une douche froide quand même à ce que vient de dire Pierre. Pierre lui dit, mais nous croyons. Et Jésus lui dit, vous? Non, pas vous. Pas vous tous. Pas vous tous, Pierre. Je le sais. Il y a un démon entre vous, parmi vous. Oh. Nous, on a nos illusions. Nous, on pense que... Mais le Seigneur connaît les cœurs. Et là, la réponse du Seigneur, c'est pour dire à Pierre, écoute Pierre, je te prépare, hein, je te prépare. Déjà, c'est dur de voir les autres partir et que vous vous accrochiez, mais je préfère te le dire tout de suite, Pierre. Ça va te faire drôle, ce que je vais te dire. Ça va être difficile à avaler, mais je préfère te le dire tout de suite. Non, pas vous tous, Pierre. Parce que même dans les 12 qui restent là, il y en aura quand même un qui fera même pire que les autres. On aurait envie de dire, c'est pas encourageant tout ça quand même. La vérité nous prépare à affronter les difficultés de la vie. On ne peut pas toujours être encouragé, consolé. L'on doit aussi être averti repris, comme nous le lirons dans d'autres passages. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Il est question de l'Antichrist. Alors, je ne vais pas me lancer dans des développements sur ce propos, parce que ce n'est pas le sujet. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Mais il y a un Antichrist qui viendra. Mais nous, nous n'attendons pas l'Antichrist. Nous attendons le Christ. Nous attendons Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui, à force de toujours regarder l'Antichrist, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver, ne se rendent pas compte qu'ils ont les yeux fixés sur l'Antichrist. Nous, on a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous savons qu'il revient nous chercher. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Dans ce passage, il est question de prodiges mensongers. Le thème de notre message, c'est la vérité. Et la vérité est plus importante que la puissance. Parce que la puissance peut être trompeuse et mensongère. Il est question de miracles, de prodiges mensongers. Nous aimons la puissance de Dieu. Mais attention, si nous aimons trop la puissance, nous serons alors fragilisés parce qu'il y a des puissances mensongères et séductrices. Et ce qui compte dans nos expériences, ce n'est pas ce qu'on vit, c'est ce que la Bible dit. C'est ce qui est vrai. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir des rassemblements où on va remplir des milliers de personnes au nom de Jésus-Christ. Et on va pouvoir peut-être même recenser des miracles et des puissances. Mais si ce qui est dit ne correspond pas à ce que la Bible dit, alors c'est une séduction. Et les questions de ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Dieu utilisera l'Antichrist comme il a utilisé Pharaon. Amen. C'est beau ce passage dans ce sens-là, c'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement. Vous savez, même dans tout ce qui va se passer dans l'avenir, il va se passer des choses terribles. Dieu est sourd. Et même l'Antichrist est utilisé ici pour perdre ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Alors n'ayons pas peur, si nous aimons la vérité, nous serons sauvés. Amen. L'amour de la vérité sauve. Pour être sauvé, il ne faut pas seulement être touché par l'amour de Dieu, comme parfois on a souvent ces expressions. C'est bien, l'amour de Dieu est une réalité, mais l'amour et la vérité vont ensemble, comme l'apôtre dans la première épître de Jean le montre. Les deux mots les plus utilisés dans son épître, c'est « amour » et « vérité ». Ça fait réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui auront été touchés par l'amour de Dieu, mais parce qu'ils n'auront pas aimé la vérité, ne seront pas sauvés. Que Dieu mette dans nos cœurs l'amour de la vérité. Nous, nous avons cherché partout et on n'a pas trouvé. Mais quand on est arrivé dans une assemblée, qu'on a entendu la prédication de la parole, on s'est dit, ça y est. Ouf! Enfin, j'ai trouvé, parce que nous avons entendu la vérité. Alléluia. Allons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Voilà ce qui est dit. Ça ressemble beaucoup à notre époque qui cherche ce qui est agréable, il faut bien le reconnaître. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Voilà ce qui est dit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, c'est-à-dire même quand parfois le peuple de Dieu voudrait autre chose, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Alors, il faut insister dans la prédication de la parole de Dieu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Nous sommes à une époque où l'on voudrait reléguer la prédication de la parole de Dieu à seulement un élément, comme d'autres, du culte. Mais ce qui est prioritaire, dans le livre des Actes des Apôtres, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans les prières. Il faut que la parole de Dieu retrouve son autorité dans nos vies, sa centralité. Il faut à nouveau la lire avec un esprit soumis, que sa parole se fasse entendre dans nos vies. Amen. Et que nous puissions la suivre. Et voilà ce qui est dit de cette parole. Alors là, ce sont des mots désagréables. Reprend, censure, exhorte. C'est pas agréable. Nous sommes atteints dans beaucoup d'endroits par une prédication très neutre, creuse, qui ne fâche personne, qui peut être entendue par tout le monde, sans trop déranger. Et chacun peut ressortir du culte en disant « Je me suis fait du bien ». Mais est-ce le but de se faire du bien ? N'est-ce pas le but de notre culte de glorifier Dieu et de lui faire du bien ? De le bénir. Amen. Il y a eu beaucoup de fois dans l'histoire d'Israël, ils se faisaient du bien dans leur culte. Mais Dieu, non. Le culte n'est pas destiné à nous, mais à lui. Amen. Et je suis persuadé que si nous le glorifions, alors nous serons aussi édifiés. Amen. Mais de la véritable édification. Parce qu'on peut, excusez-moi, on peut sortir du cinéma et se dire « ça m'a fait du bien le film hein ». Il y a beaucoup de choses dans les lieux où on peut sortir et dire « ça m'a fait du bien ». Oui, ça m'a fait du bien. Mais est-ce que Dieu a été glorifié ? Est-ce que je me suis vraiment approché de Dieu comme il le fallait ? C'est tout un sujet, ça, dans le livre de Lévitique et dans bien d'autres livres. Il nous est dit qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu par la chair. Et quand Jésus dit, je réfléchis peut-être à faire un message sur cela, je ne sais pas, quand Jésus dit « ce que Dieu veut, c'est des adorateurs qui adorent Dieu ». Alors, la traduction plus juste, c'est « par le Saint-Esprit, par l'Esprit et en vérité ». Eh bien, ça, c'est très profond. Ce n'est pas le culte par l'émotion, le culte par la chair, le culte par l'Esprit et en vérité. Il y a bien à réfléchir sur ces choses-là. Alors, oui, reprends, censure, exhorte, bien-aimés, vous et moi, nous avons besoin d'être repris, nous avons besoin d'être censurés. Alors ça, depuis 68, on a placardé sur les murs, il est interdit d'interdire. Alors, censurer, c'est interdire. Alors, on ne supporte plus. Alors, Dieu m'a, je suis libre. Il n'y a pas d'interdit quand on est chrétien. Ah bon ? Je pense qu'on n'a pas la même notion de la grâce. La grâce nous éduque, Tite chapitre 3. La grâce nous éduque à renoncer à l'impiété. Dans la grâce, il y a des interdits. Eh oui, Dieu m'interdit de faire n'importe quoi. Mais je ne le fais pas parce que je suis interdit, mais parce que sa grâce et son esprit me renouvellent. Alléluia. Mais néanmoins, nous devrions accepter. Nous avons besoin d'être repris, d'être censuré, d'être exhorté. On n'aime pas être repris. On aime être flatté. Mais quand quelqu'un nous dit non, 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 on n'aime pas. Tout le monde, hein, c'est désagréable. Et l'Écriture dit après que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Alors, la parole de Dieu ici a un côté désagréable, mais par contre, les fausses doctrines sont agréables. Eh oui, c'est une religion confortable. C'est la religion au service du plaisir. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, parce que je suis plutôt d'origine athée. Et j'ai toujours détesté les églises, les choses de Dieu, les prières. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y a des gens, par contre, qui ils aiment bien. Ils aiment bien la religion. Et c'est un plaisir pour eux. Et la religion peut vraiment faire partie dans leur vie de choses plaisantes au même titre que d'autres activités qu'ils peuvent faire. La religion n'est pas toute leur vie, c'est un élément dans leur vie qui leur apporte stabilité, confort et même un certain plaisir d'entendre des choses qui sont bonnes, de vivre des choses qui sont aussi bonnes. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur Jésus est venu. Il n'est pas venu nous apporter une religion confortable pour que nous y trouvions du plaisir. Mais là encore, le but, c'est que Dieu trouve du plaisir dans notre, entre guillemets, religion. Puisque Jacques dit, la religion pure est sans tache. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, pour terminer avec ces passages. Hébreux 4, versets 12 et 13, voilà ce qui est dit. Hébreux 4, 12, 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Ici, la parole de Dieu est imagée par une arme quand même. Ce sont des textes que l'on cite souvent, mais il faut revenir à cette réalité. C'est une arme de guerre, une épée à double tranchant. C'est quand même quelque chose qui fait mal. Si on vous donne un coup d'épée, ça ne va pas vous faire du bien. À double tranchant. Pénétrante, pour nous parler de la profondeur, de la capacité de la parole de Dieu à aller en profondeur dans nos vies. Et c'est expliqué un peu plus loin, jusque dans le cœur. Le cœur, dans l'Écriture, c'est le centre névralgique de notre vie. C'est pas le centre des émotions, comme nous en français, c'est un peu plutôt ça. Mais dans l'Écriture, le cœur, c'est du cœur que viennent. C'est la source. C'est le centre de notre personnalité. Et la parole de Dieu va aller jusqu'au fond de nous. Amen. Il sur le cœur transpercé, acte 2, à la prédication de Pierre. Profondeur et trier. Elle sépare, elle trie. Il y a du tri à faire parce que dans nos vies, il y a du mélange. Même quand on sert Dieu. Des fois, on sert Dieu et il y a du mélange. On le fait pour le Seigneur, c'est vrai. Mais on ne le fait pas que pour le Seigneur. On le fait aussi pour être vu, remarqué. Parfois, on prend trop de place, on prend toute la place. On empêche les autres de servir, sans même s'en rendre compte. Parce qu'on ne sert pas que le Seigneur. On se sert aussi. Et la parole de Dieu, elle va venir plus profondément. Faire un tri. Au début, on ne l'accepte pas. On dit, mais non, Seigneur, c'est pour toi. Mais c'est pour toi que je le fais, Seigneur. Et on ne dit pas le contraire. On dit que ce n'est pas que pour ça. Que ce n'est pas 100% bon. Et après, on comprend que le Seigneur ne nous rejette pas. Mais le Seigneur nous sanctifie. Amen. Et avec sa parole, il veut trier. Trier dans nos vies. Ce qui est bon pour lui et tout ce qui est pour nous, petit à petit. Bon, ça prendra toute notre vie, en fait. Hein. Toute notre vie, nous aurons à être jugés par la parole de Dieu. Il vaut mieux être jugé maintenant et ne pas être jugé plus tard. Parce que c'est écrit ici, « Nulle créature n'est cachée aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous savez, Dieu veut nous juger maintenant par sa parole pour nous sauver pour toujours. Amen. Et à chaque fois que, dans l'Église, vous vous sentez jugé par la parole de Dieu, ne partez pas en étant en colère. « Mais c'est pas normal, cette parole elle est dure » ou je sais pas quoi. Ou une prophétie, peu importe. Ne partez pas en colère, c'est parce que Dieu veut vous sauver. C'est Dieu vous juge maintenant pour ne pas vous avoir jugé au jugement dernier. Alléluia. Et les gens au jugement dernier seront condamnés parce qu'ils n'ont pas voulu être jugés par Dieu maintenant. Alors, quand le Seigneur nous dit la vérité, c'est vraiment pour notre bien et parce qu'il nous aime. Amen. On termine avec la Ésaïe 50, justement à propos du Seigneur. Ésaïe 50. Après, JP, si ça ne vous dérange pas, on chantera un cantique ensemble. Ésaïe 50, versets 5 et 6. Ésaïe 50, versets 5 et 6. Ésaïe 50, verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Alors c'est une prophétie sur le Seigneur. Et il est dit du Seigneur, j'ai ouvert mon oreille. Je ne suis pas reculé, je n'ai pas fui. Mais ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté très cher. Ils ont labouré mon dos. Ils m'ont crucifié. Pourquoi ? Parce que je leur ai dit la vérité. J'ai ouvert mon oreille. La vérité a un prix. Vous êtes dans votre travail. Je n'ai pas été très pratique ce matin volontairement, parce que je veux simplement qu'on retienne une chose, je suis persuadé de cela, bien-aimé. C'est pas que ici, d'une façon générale, on a perdu en vérité et en acceptation de la vérité. Nous sommes devenus parfois susceptibles et les assemblées ont été maintenant habituées à entendre des messages, comme je le disais, un peu passe-partout et très neutres. Et que quand des messages sont un peu plus incisifs, parfois on ne le comprend même pas, on le prend mal. Et le but ici, ce n'est pas d'être très concret, mais il nous faut retrouver un cœur qui aime la vérité. Et s'il y a ça, tout le reste va suivre. Amen. Mais alors, je termine quand même en disant quelque chose de plus pratique. Je vais parler du prix de la vérité. Vous savez, à votre travail, tout le monde peut vous apprécier. Si vous leur dites jamais rien. Alors, des fois, on dira, bah, c'est bien, il rend un bon témoignage. Il rend un bon témoignage, tout le monde l'aime. Parfois, c'est parce qu'on rend un bon témoignage que ça se passe bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, ça se passe bien parce qu'on met le mouchoir dans sa poche. Ça se passe bien parce qu'on n'a pas le courage de dire, ça, je ne le ferai pas parce que je suis chrétien. Ça, je ne le dirai pas parce que je suis chrétien. Témoigner, c'est pas seulement dire « le Seigneur vous aime ». Témoigner, c'est aussi dire « là, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, donc moi je ne le ferai pas ». Vous vous rappelez avec un officier romain, même un homme politique romain, quand Paul commence à lui parler de justice, de tempérance, il a été effrayé. Il a dit « je t'entendrai là-dessus une autre fois ». Il a été effrayé. Ce que Paul lui a dit, il l'a effrayé. Je crois que l'évangile de Paul, c'était pas tout à fait de lui dire « écoute, le Seigneur t'aime ». C'était plus que ça. Et Jésus, quand il prêchait et qu'il enseignait, il disait pas que le Père aimer les hommes. Il a dit beaucoup d'autres choses. Alors, il ne faut pas être dur, il ne faut pas être méchant, la question n'est pas là. Mais être vrai dans l'amour. Amen. Jésus a ouvert l'oreille, ben, ils ont lacéré son dos. Je sais que la vérité coûte cher, je le sais. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Amen. Et même dans notre vie de chrétien et de chrétienne, si on n'entend plus la vérité, si on ne dit plus la vérité, en fait, notre vie va devenir fade. Et on ne comprendra plus, on se dira, mais je prie, je sens pas le Seigneur. Je lis la parole, ça ne réchauffe plus mon cœur. Je vais à l'église, mais j'y suis plus vraiment. Tout ça, c'est de la fadeur. Et pour retrouver le goût de la présence de Dieu, le goût de la parole de Dieu, alors il faut peut-être revenir à un cœur qui a soif de vérité. Amen. Que Dieu nous aide et nous bénisse.